Il est 8h.
C'est un coup de semonce, ça peut mener à des conséquences extrêmement graves pour l'économie du cognac, qui fait vivre directement ou indirectement 60 000 personnes.
Tout un secteur économique risque le décrochage. Avec une taxe américaine à 25%, le cognac, mais aussi l'ensemble des vins non pétillants. Explication sur cette punition commerciale qui cible ces boissons françaises, alors que le conflit concerne pourtant les avions européens. Comment lutter contre le séparatisme quand, déjà au sein de l'islam de France, les fédérations se regardent de travers? Les projets d'Emmanuel Macron pris entre un calendrier ultra court et des désaccords profonds parmi ses interlocuteurs? Notre dossier ce matin. Et puis, arrivera-t-on à imiter l'américain SpaceX et ses fusées réutilisables? Les ingénieurs d'Ariane Group y travaillent dans des labos discrets en Normandie.
Nous allons également parler du secteur aérien sinistré. C'est un pan de l'économie quasiment à l'arrêt depuis un an et qui espère des résultats rapides après l'arrivée des vaccins. Le débat sur le passeport sanitaire aussi relancé avec la propagation du variant anglais. Augustin de Romanet, président du groupe ADP, répond aux questions de Sonia Mabrouk à 8h15. Bienvenue sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est profondément injuste et même absurde en apparence. Et pourtant, la décision est bel et bien appliquée comme un mauvais cadeau de départ de Donald Trump aux vignerons français, alors qu'il s'agit au départ d'un vieux conflit sur les subventions accordées respectivement à Airbus et Boeing.
Bonjour Carole Ferry.
Bonjour.
On parle donc ce matin de cette taxe sur les vins français qui existait, mais qui est très largement étendue.
Effectivement, jusqu'ici, cette taxe à 25% touchait les vins avec un degré d'alcool inférieur à 14 degrés et conditionnés dans des bouteilles de moins de 2 litres. Désormais, elle vise tous les vins non pétillants, quel que soit leur degré d'alcool et leur contenance. Le vin en vrac, par exemple, exempté jusqu'à présent, est désormais taxé. Autres produits concernés, l'armagnac et le cognac. Le cognac que l'on boit peu en France, mais qui est très prisé à l'international, surtout aux États-Unis. Il se boit beaucoup en discothèque, notamment. Selon le directeur général du bureau interprofessionnel du cognac, Raphaël Delpech, cette taxe américaine est une véritable menace pour leur part de marché.
C'est un coup de semonce. Nous nous retrouvons embarqués dans un contentieux dans lequel nous n'avons strictement rien à voir. C'est le contentieux Airbus-Boeing qui dure depuis 2004. Ça peut mener à des conséquences extrêmement graves pour l'économie du cognac et qui, ici, dans la région Nouvelle-Aquitaine, en Charente-Maritime, fait vivre directement ou indirectement 60 000 personnes. Donc vous comprenez tout l'enjeu pour nous.
Alors une réunion est prévue demain à Bercy pour étudier des mesures de soutien au secteur. Encore faut-il le feu vert de Bruxelles qui pourrait dénoncer des aides d'État.
Carole Ferry du service économie d'Europe 1.
À propos des États-Unis, Donald Trump a revu son vice-président Mike Pence pour la première fois depuis les émeutes du Capitole de la semaine dernière. Il l'avait traité de lâche pour avoir certifié les résultats de l'élection de Joe Biden. Rencontre donc dans le bureau ovale, mais sans la moindre image.
Par ailleurs, Twitter a supprimé cette nuit 70 000 comptes qui étaient liés à QAnon, cette mouvance conspirationniste dont des membres ont participé aux émeutes à Washington. Je vous invite à réécouter le dossier du journal de 7h sur ce pouvoir de Twitter qui a aussi couper le sifflet à Donald Trump, et ce, sans aucun contrôle démocratique, c'est sur Europe1.fr.
En France, un quart des départements sont désormais sous couvre-feu dès 18h. Le Var et la Drôme rejoignant la liste dès ce soir. Nicolas Barré nous révélait dans son édito à 7h15 que le fonds de solidarité pour les entreprises touchées par la crise pourrait atteindre jusqu'à 3 millions d'euros désormais au lieu de 800 000 aujourd'hui. Il faut dire que selon l'Organisation mondiale de la santé, avec le rythme du déploiement du vaccin sur la planète, l'immunité collective ne sera pas atteinte cette année.
Bonjour Aurélien Fleureau.
Bonjour.
2021 s'annonce donc encore très compliqué pour de nombreux secteurs et en France plus particulièrement pour le groupe Aéroports de Paris.
Oui, les mois se suivent et les aéroports sonnent toujours creux. Le groupe ADP a connu un mois de novembre catastrophique avec seulement 1 million de passagers accueillis à Orly et à Roissy, soit une baisse de 88% par rapport à novembre 2019. Les chiffres de décembre seront publiés la semaine prochaine, ils seront forcément un peu plus positifs. Il y a eu un réel effet Noël sur le trafic domestique et surtout en direction des Outre-mer. Orly a même pu rouvrir son terminal 4, mais les prévisions 2021 restent alarmistes. Même avec une vaccination généralisée, Eurocontrol estime que le trafic ne va pas dépasser les 40% dans les mois qui viennent. Pas de retour au niveau de 2019 avant au moins 2024, selon les experts du secteur. Une chute durable de la fréquentation qui a déjà des conséquences sociales chez ADP. Un accord de rupture conventionnelle collective a été signé en décembre, avec à la clé plus de 1100 départs volontaires dont 700 ne seront pas remplacés. De nouvelles négociations vont débuter fin janvier avec cette fois sur la table une baisse des salaires.
Aurélien Fleureau, spécialiste transport d'Europe 1, il est 8h05.
Et c'est dans 6 jours que doit commencer l'examen de la loi contre le séparatisme à l'Assemblée nationale, avec une vraie difficulté que l'on a choisi d'explorer ce matin, c'est celle de l'interlocuteur. L'État et le gouvernement devraient normalement échanger assez naturellement avec le CFCM, le Conseil français du culte musulman.
Louis Dragnel, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Cette instance n'est pas vraiment représentative de la communauté musulmane et elle est minée par des divisions.
Oui, exactement, elle est minée par des divisions. Et puis Emmanuel Macron avait eu une ambition qu'il avait exprimée haut et fort au Mureau le 2 octobre dernier. Le chef de l'État était convaincu qu'il allait réussir là où ses prédécesseurs avaient échoué, à savoir obtenir le consensus de la communauté musulmane. Très rapidement, Emmanuel Macron s'est heurté au rejet de plusieurs organisations sur des sujets périphériques au projet de loi, comme la création d'une charte des valeurs républicaines, la création d'un conseil national des imams ou encore la transformation des associations musulmanes en loi 1905 pour rendre transparent le financement des mosquées. La semaine dernière, les relations se sont encore tendues lorsque le président du CFCM a annulé deux fois sa participation à des auditions parlementaires, officiellement pour des raisons de santé, ce qui ne l'a pas pour autant empêché de se rendre aux vœux d'Emmanuel Macron. Ce week-end, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a essayé de recoller les morceaux en recevant trois représentants du CFCM, mais séparément pour que la parole soit libre. Et ces échanges ont été jugés difficiles, place Beauvau.
Et pour ce dossier, nous sommes aussi avec Virginie Riva, la spécialiste religion d'Europe 1.
Bonjour Virginie.
Bonjour.
Au sein du CFCM, des tensions internes ont éclaté lorsqu'Emmanuel Macron a poussé ce projet de Conseil national des imams de
oui,
France.
Oui, parce qu'il faut savoir qu'au sein du CFCM, il y a trois grands courants dominés par les Marocains, les Algériens et les Turcs. Il y a 15 jours, le recteur de la mosquée de Paris, tenu par les Algériens, a quitté la table des négociations en prétextant l'islamisme de certaines des composantes du CFCM. Sur le terrain, les imams ne supportent plus toutes ces guéguerres. Écoutez, Mohamed Bajrafil, qui a décidé d'abandonner sa fonction d'imam de la mosquée d'Ivry, où il exerçait depuis 21 ans.
Aucune religion n'est aussi mal structurée que l'islam de France. Ça, c'est pas possible, en fait. Donc, que l'État veuille que les choses changent, c'est tout à son honneur, c'est même son devoir. La manière dont il s'y est pris, en construisant un islam de France sur des bases ethno-religieuses, ça n'a pas de sens.
Alors, on entend ça, Louis Dragnel toujours avec nous. Est-ce que ça signifie que la loi est menacée ?
Alors, clairement, non. Sauf coup de théâtre, le texte devrait être adopté. Le vrai problème, ce sera l'adhésion à la loi des organisations représentatives de l'islam. Car si elles ne jouent pas le jeu à fond, eh bien, la lutte contre l'islamisme pourrait rester au niveau du débat intellectuel.
Virginie Riva, quelle serait les solutions, si toutefois elles existent?
Alors écoutez, beaucoup d'acteurs affirment qu'il faut repartir de la base, c'est-à-dire des départements, comme Azzedine Gassi, le recteur de la mosquée de Villeurbanne.
Chaque département aura des représentants au niveau national, des grands électeurs si vous voulez. Ensuite, ils se retrouvent au niveau national pour élire un bureau, un représentant national ou un grand imam. À l'image, en quelque sorte, de ce que font nos amis catholiques avec le Conseil des évêques de France.
Voilà, sauf que ce processus prendrait trop de temps. C'est tout le problème d'Emmanuel Macron. Il veut aller vite, comme Nicolas Sarkozy quand il a créé le CFCM en 2003. Résultat, en 17 ans, personne n'a pris le temps nécessaire pour mettre sur pied une organisation légitime et solide.
Voilà, face aux dissensions du Conseil français du culte musulman et de ses différentes composantes, comment réformer l'islam de France, comment lutter contre les séparatismes, c'est le dossier d'Europe 1 ce matin. Il est déjà à retrouver sur europe1.fr. Merci Virginie Riva, merci Louis Dragnel.
8h09 sur Europe 1. Vous restez avec nous dans un instant. La France est-elle capable, elle aussi, de produire des fusées low cost? Ariane Group y travaille. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h10 sur Europe 1, la suite du journal, François Geffrier.
Et ce coup de projecteur politique sur un projet industriel d'avenir. Emmanuel Macron se rendra cet après-midi à Vernon, dans l'Eure, sur l'un des sites d'Ariane Group.
Bonjour Laure d'Autriche.
Bonjour.
Des ingénieurs y construisent en ce moment une nouvelle génération de moteurs de fusée baptisés Prometheus.
Oui, à Vernon, dans un site caché en pleine forêt, on construit les moteurs et les fusées de demain. Ce moteur nouvelle génération, baptisé Prometheus, est si complexe qu'il ne peut être fabriqué qu'avec des imprimantes 3D géantes. Et il est surtout 10 fois moins cher que les moteurs qu'on utilise aujourd'hui. Il permettra à la fusée de revenir se poser à la verticale sur le pas de tir, comme est capable de le faire aujourd'hui la société américaine SpaceX. Et le moteur, lui aussi, pourra être réutilisé réutiliser, détaille Jean-Yves Le Gall, le patron du Centre national d'études spatiales.
J'ai fait décider ce programme début 2015 à un moment où pas grand monde en Europe croyait au réutilisable. Donc, par chance, nous l'avons décidé et Prometheus va faire ses premiers essais au banc en 2021.
La France et l'Europe, si elles veulent être concurrentielles, n'ont pas d'autre choix que de miser sur la technologie réutilisable face à une extrême réactivité des sociétés privées dans le domaine spatial.
Laure d'Autriche, spécialiste sciences d'Europe.
Réunion au sommet cet après-midi au siège de la Ligue de football professionnelle. Il faut sauver les clubs.
Et la solution trouvée, ce serait que les joueurs de foot acceptent de baisser leur salaire. Les représentants des deux parties vont négocier. Cyril de la Morinerie.
Le président de l'AC Ajaccio tire la sonnette d'alarme. Son club pensionnaire de Ligue 2 risque bientôt de ne plus pouvoir payer ses salariés. Christian Leca sera donc à Paris cet après-midi lors de cette réunion cruciale. Il fait partie de la délégation de présidents de club qui va négocier directement avec les représentants des joueurs afin d'obtenir une baisse de leur salaire.
C'est une question de survie. Parce que les actionnaires, ils vont pas remettre au pot systématiquement. À un moment donné, ils vont dire « Oh, ça suffit, les gars. Hein. » Si on n'a pas de solution d'ici fin mars, on sera dans le rouge, hein, dans le rouge vif même.
Au printemps dernier, un accord avait été conclu pour reporter une partie des salaires. Mais cette fois, il s'agit d'obtenir une réelle diminution. Autrement dit, une baisse proportionnelle de leurs revenus. Plus le salaire est élevé, plus l'effort serait important. Les joueurs vont-ils accepter de se serrer la ceinture ? Oui, assure Paul Besse, défenseur de Bordeaux et membre de l'Union des footballeurs professionnels.
Je pense que tout le monde est prêt à faire des efforts financiers. La crise, on la traverse tous. Hein.
Mais attention, si un accord cadre est obtenu, il ne sera qu'incitatif. Le joueur restera libre d'accepter ou non une baisse de ses revenus.
Voilà, messieurs les footballeurs, êtes-vous prêts à gagner moins ? On a très envie de savoir.
On a très envie de connaître la réponse. Attention aussi aux généralités. Hein, entre la fin de classement de Ligue 2 et les joueurs du PSG, on n'a pas tout à fait les mêmes revenus non plus. Merci beaucoup, François Geffrier. C'était le journal de 8h sur Europe 1. Il est 8h13.
Europe 1, Mathieu Béliard.